Nous arrivons donc à la fin de ce séminaire, hein, de deux jours, un jour et demi. Et donc, et vient le moment de la synthèse. Elle sera brève, mais en même temps, elle sera... Je ne vais pas vous faire souffrir plus par rapport au déjeuner, hein, et prendre trop de retard. Mais je crois que quand on a lancé ce séminaire, hein, et on se regarde de manière extrêmement complice avec Manuela, c'était pour réfléchir, hein, sur la question de l'évolution du métier de professeur français. Et on a eu un temps relativement court pour construire ce séminaire. Et ce séminaire a été construit dans un dialogue, je dirais, tout à fait fructueux entre la petite équipe du CIEP et la petite équipe de la fédération qui travaillait dans un échange d'idées, de construction, de développement. Hein, parce que nous étions, pour une fois, en termes d'équipe, nous étions deux-deux, comme on les appelle. Alors, c'était fait pour... du point de vue aussi de la fédération, pour lancer le débat au niveau de la fédération et au niveau des associations membres sur ce thème de la compréhension des évolutions du métier de professeur de français et leur accompagnement. Voulait avoir de la part des associations et des associations présentes ici, on savait, elles avaient une réflexion, hein, sur la question, voulait qu'elles confrontent leur point de vue, confrontent leur réflexion, qu'elle montre aussi qu'est-ce qu'elle faisait au niveau de leurs associations pour répondre à cette question de l'évolution du métier de professeur de français avec cette dimension extrêmement forte liée à l'innovation et liée à la mondialisation. Donc, je dirais, du point de vue de la fédération, et vraiment, on va reprendre tous ces éléments et les synthétiser par rapport à tout ce qu'il a entendu pendant ces deux jours qui ont été, je crois, de l'avis de tous, riches d'échanges, riches de nos diversités, riches de nos réflexions et de nos interrogations par rapport à l'évolution du métier et à son accompagnement. Donc, merci beaucoup au CIEP qui a bien voulu échanger, construire, élaborer avec nous ce séminaire et cette réflexion. Et j'espère qu'au sein des associations, vous allez maintenant pouvoir développer le débat, l'enrichir, le proposer dans un cadre régional. Et tout cela alimente bien évidemment toute la réflexion de la fédération sur ces questions, réflexion au cœur véritablement de notre métier.
Moi, je vais prendre la parole brièvement puisque Fabienne m'a dit que je n'aurais rien à faire et que c'était Raymond qui faisait tout. Donc, moi, je voudrais, en conclusion, simplement vous dire que pendant cette journée et demie, nous avons, je pense, tous fait le constat de la grande diversité des situations d'enseignement. Cette diversité, elle est parfois perçue dans un monde mondialisé, normatif, où il y a de plus en plus une seule ou voilà, une seule pensée, à la fois économique, comme l'a dit Geneviève, mais aussi une seule manière de penser le rapport à l'autre. Je crois que la communauté mondiale des professeurs de français, dans cette grande diversité, conçoit cette grande diversité comme une richesse. Aucun d'entre nous n'a plaidé, n'a argumenté pour dire qu'il y avait une seule solution. Au contraire, nous avons tous plaidé pour dire qu'il y avait plusieurs solutions. Donc nous envisageons la diversité, quelque part le métissage, comme positif dans notre monde, dans notre communauté à nous des professeurs de français. J'ajouterai à cela, et vous l'avez entendu hier, hein, c'est un petit peu mon obsession, qu'il faut ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, aller vers d'autres disciplines, décloisonner, se décentrer, comme l'a dit également Geneviève tout à l'heure. Je crois que c'est par ce biais-là qui consiste à s'enrichir finalement, ouvrir une porte, c'est aller vers d'autres, c'est penser autrement, apprendre à penser autrement, sans se renier, hein, là aussi, hein, c'est important de trouver un équilibre entre ce qu'on est, notre éthique professionnelle et toute cette diversité du monde intellectuel, pratique, économique qui nous entoure. Donc pour moi, les mots de conclusion sont ceux-là, la diversité, le métissage, et nous incarnons tous dans la communauté mondiale des professeurs de français cette diversité et ce métissage, et notre travail, notre éthique professionnelle, c'est de participer à travers l'enseignement de la langue à maintenir et à accélérer, à diversifier ce métissage par l'apprentissage, l'enseignement du français. Voilà. Merci à vous.
Oui, merci. Faire la synthèse des contributions d'une vingtaine de personnes qui sont passées en une journée et demie, il y a quelque chose d'un peu dingue. Et allez savoir pourquoi ils ont demandé ça à nouveau à un Belge. Donc ne soyez pas surpris si dans ce que je vais essayer de synthétiser, il y a quand même, ci et là, des accents un peu surréalistes. Mais je fais une promesse que je vais essayer de tenir. Et si je ne la tiens pas, je sais qu'il y a, j'aurais subirai des sanctions physiques de la part de la secrétaire générale. Je fais la promesse de vous faire un texte écrit de cette synthèse. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vais me limiter à un certain nombre de choses qui m'ont frappé, qui m'ont marqué, que j'ai entendu aussi dans les couloirs. Manuela a, dans le propos introducteur, a déjà esquissé un certain nombre de points fondamentaux sur lesquels je vais peut-être revenir, mais sur lesquels je ne m'étendrai pas. Si je voulais commencer par une image qui est aussi en fait une façon d'enfoncer une porte ouverte, c'est que très nettement, et ça plus que ce ne fut le cas dans le passé, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes face à un certain nombre de défis qui peuvent faire réfléchir, qui doivent faire réfléchir, mais des défis qui sont aussi en même temps des projets de ce que j'appellerais des chantiers. Nous sommes des ingénieurs de formation, nous sommes aussi des ingénieurs de formation qui réfléchissons à notre propre formation, à la formation que nous donnons à nos élèves, à nos étudiants et à nos collègues avec qui nous essayons aussi de réfléchir. C'est fou ce que le prof réfléchit quand même. Hier, Jean-Michel parlait de miroir. Eh bien, je crois que nous réfléchissons beaucoup plus que certains miroirs. Mais nous sommes à la croisée des chemins parce que les défis qu'on nous donne, qu'on nous impose et que nous voulons relever, eh bien, ils vont déterminer et notre vie, mais aussi l'avenir de nos étudiants, de nos élèves. Il y a une première. Je vais partir. Non pas parce qu'elle est à côté de moi, mais je vais partir de la conférence inaugurale de Manuela. Parce qu'à ce moment-là, elle a déjà esquissé un certain nombre de choses que tu as, dans une vision presque prophétique, que tu as senti qui allait être abordée dans le courant de cette journée et demie. Il y a... Une des premières idées que tu as lancées, que j'ai retrouvées chez Geneviève, que j'ai retrouvées chez Jean-Michel, que j'ai retrouvées chez M. Sek Abdoulaye, que j'ai retrouvé chez Jean-Pierre, c'est cette absolue nécessité d'éviter la dérive vers la langue de service. Il y a une formule forte que tu as utilisée qui est la langue et la culture constituent la géographie de l'enseignement-apprentissage du français. Ce fut le cas dans le passé et ce l'est encore beaucoup plus maintenant. La langue n'est pas uniquement un moyen de communication, ce n'est pas uniquement un moyen avec lequel, par lequel je peux demander dans une épicerie ce dont j'ai besoin pour constituer mon repas, pour faire une réservation d'hôtel. C'est aussi une façon d'apprendre à voir et à nommer le monde et à échanger avec d'autres gens qui voient et nomment le monde différemment. Une autre idée que tu as énoncée, Manuela, je suis corruptible, hein, donc tout ce qui est chocolat. Ça, mais une autre idée que tu as énoncée, que j'ai retrouvée chez Jean-Michel, que j'ai retrouvée chez Abdoulaye, que j'ai retrouvée chez Mirjana, que j'ai retrouvée chez Françoise, c'est que le bilinguisme, ce n'est pas. Et surtout, le bilinguisme simultané, ce n'est pas quelque chose qui rend idiot. Au contraire, celui qui est bilingue, celui qui est plurilingue, est capable de nuances, est capable de formuler, de travailler, je dirais, pratiquement en trois dimensions linguistiques. De voir les profondeurs, de voir les rapports, d'établir aussi au niveau... fonctionnement psychique, d'établir de créer de nouveaux algorithmes qui permettent de mieux voir, de mieux comprendre et de mieux transmettre le monde. Une autre idée qui a été abordée au fil de cette journée et demie, c'est que l'enseignement, ou l'école si vous préférez, quelle que soit la dimension de cette école, mais que l'enseignement, l'école devient un marché. Mais que considérer ou approcher l'enseignement comme étant un marché ne signifie pas automatiquement, et cela Isabelle l'a très bien souligné ce matin, ça ne veut pas dire automatiquement faire table rase de valeurs. Au contraire, ça sous-entend aussi une recherche de qualité, une recherche de mesure de la qualité et une recherche d'engagement de la qualité. Tant dans la formation initiale, la formation continue, que dans le fonctionnement. On pourrait épiloguer un peu plus sur cette notion de marché, parce que ça pose en effet, tu l'as abordé hier, ça pose la question de l'avenir, du recrutement et de la rémunération des enseignants. Et ça rejoint un peu ce que mon collègue allemand, le Bavarois, avait esquissé, à savoir que si l'on veut, et ce n'est pas un vœu pieux, c'est de devenir une question de, je dirais, pratiquement d'éthique pour nous. Si l'on veut que l'enseignement soit vraiment ce qu'on demande qu'il soit, mais il faudrait se mettre à réfléchir très sérieusement. Et ça peut être l'objet de campagnes, ça peut être l'objet de projets sur le rôle social et sociétal que l'on attribue à l'enseignant, et en particulier à l'enseignement de langues et de langues étrangères, de langues vivantes, puisque c'est lui en premier, ou c'est eux qui construisent les ponts entre les matières et entre les cultures. Il y a une autre dimension qui est apparue à travers les diverses tables rondes des conférences et qui est une dimension que tout le monde connaît, qu'on croit connaître et à laquelle tout le monde acquiesce, à savoir le rôle fondamental, n'ayons pas peur des mots, que l'enseignant et l'enseignant de langue en particulier joue dans la formation citoyenne et dans la formation linguistique, culturelle et sociétale. À nouveau, l'exemple qu'a donné notre collègue indienne, qu'a donné Geneviève, excusez-moi de bafouiller de temps en temps, mais j'essaye de parler aussi vite que je ne suis en train de penser, ce qui n'est pas toujours évident. D'abord, je suis un homme, je ne peux faire qu'une chose à la fois, et encore. Mais il y a tellement à dire sur cette journée et demie. Ça a été tellement riche que retenir quelques idées, ce n'est quand même pas toujours évident. Et cette idée de rôle crucial à la, de formation à la citoyenneté, au rôle social de la langue et du prof de langue, ça m'a amené à découvrir à travers les divers témoignages et diverses contributions et sûrement à travers certaines tables rondes, qu'en fait, nous étions tous à la recherche d'une nouvelle définition de ce que j'appellerais une nouvelle maïeutique. Une nouvelle maïeutique, c'est-à-dire, c'est la technique où l'on met, au sens littéral, des enfants au monde. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de chercher, c'est de nouvelles façons de mettre l'enseignant, de mettre l'apprenant, de mettre les parents des apprenants au monde, de mettre notre apport au monde et de le faire vivre dans ce monde en tenant compte du monde. Un exemple très concret qui est revenu à plusieurs reprises, c'est que le monde de l'apprenant n'est pas le monde nécessairement de l'enseignant et que c'est le monde de l'apprenant, quel que soit son âge, quelle que soit la région ou la société dans laquelle il vit, c'est le rôle, c'est l'apprenant qui détermine ce que je peux, en partie tout au moins, ce que je peux lui apporter. C'est mon apprenant qui va définir mon rôle. Et c'est, Elisabeth a employé une très belle formule qui résume en fait cette notion de maïeutique, je dirais presque une formule herméneutique. Quant à la cité, je crois que c'était une citation de Hölderlin. Je cherche Elisabeth, je ne la vois pas. Bon, elle a dit « Dieu a créé l'homme ». En parlant de l'enseignant, en parlant du rôle de l'enseignant. Oui, j'ai dit l'homme. Non, c'est le monde, bien sûr. Dieu a créé le monde comme la mer a créé la terre en se retirant. Notre rôle est un rôle de metteur au monde. Et à partir d'un certain moment, nous devons disparaître. Et c'est l'apprenant qui continue. Et c'est toute cette réflexion qui a alimenté en fait les contributions sans que ce terme ait été utilisé, sans qu'il ait été dénommé. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle maïeutique. Et je crois, en me basant sur ce que j'ai entendu, et en reprenant aussi mes convictions personnelles, et qui ne sont pas uniquement individuelles, qui sont partagées, je crois, par l'ensemble des membres de la FIPF, qu'il y a là un rôle fondamental pour les associations. Ça a été dit par les collègues portugais, ça a été dit par Monsieur Sec, ça a été dit par d'autres personnes aussi. Si nous sommes à la croisée des chemins, nous ne sommes pas seuls. Les associations ont un rôle fondamental parce que c'est elles qui deviennent et doivent devenir, si elles ne le sont pas encore, les interlocuteurs des institutions qui, pour le moment, sont en train de se retirer et de laisser les choses aller en disant ben, « Nous sommes dans une société libérale. Faites !» Or, les professeurs et les enseignants, en général, et surtout les apprenants, ils ont besoin de structures, ils ont besoin de projets, ils ont besoin de voir plus loin qu'aujourd'hui. Il y a automatiquement, et c'est un autre point qui est revenu à de nombreuses reprises, nommé de façon multiple, mais il y a une nécessité de réinventer notre métier. Une réinvention de notre métier que nous, professeurs et associations de professeurs, sont peut-être les mieux à même d'essayer de définir. Et les projets dont les collègues portugais ce matin ont parlé, et peut-être celui pour lequel j'ai pu témoigner de Formacom, sont des façons d'aller, et je pense aussi au projet qui se développe au Liban, je pense aussi à ce que M. Sec a abordé, Je pense aussi à l'approche de Jean-Michel, si, même si c'est à un niveau individuel, mais ce sont des projets avec lesquels les collègues et les apprenants voient que le dessin se développe progressivement et que l'on va vers quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas un point terminal, c'est à nouveau un point de départ. Il y a... J'ai beaucoup aimé, et je crois que je ne suis pas le seul, même si je ne suis que le seul, alors vous n'aurez qu'à me critiquer, mais j'ai beaucoup aimé la formule que Geneviève Zarat a utilisée concernant notre rapport à l'anglais. Il est plus que temps que nous sortions d'un rapport d'antinomie, d'hostilité, de considérer l'anglais comme étant source de danger. Non, il existe, point à la ligne. Et comme disait Geneviève, c'est un skill, c'est une donnée fondamentale, mais ça ne veut... le vrai problème, ce n'est pas la domination de l'anglais, le vrai problème, c'est la domination ou le risque de danger de la pensée unique. La pensée unique est de la rendre les enseignants et les étudiants, les apprenants, conforme à un projet unique. Or, s'il y a un terme qui a été utilisé tout à l'heure par Manuela et qui a été utilisé à travers toute la journée et demie, c'est bien celle de diversité et de complémentarité. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a Fabienne qui est en train déjà de sortir son revolver, qui va dépasser. Il y a un certain nombre de choses, encore, quand j'y vais m'arrêter là, non. Je voudrais terminer par une image, un terme qui a été utilisé à profusion, ou qui a été nommé de façon différente, mais chaque fois c'était la même idée, et c'est cette belle idée que Jean-Michel a lancée, qui a été reprise aussi par Manuela, qui a été reprise par Marc Albert, qui a été reprise par nos collègues portugais, c'est celle de compagnonnage. Le prof, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose pourquoi me guide. Le prof, il faut le sortir de son isolement, parce que s'il reste dans son isolement, il devient un être encore plus fragile et un être qui a peur. Et nous avons besoin, ou qui a peur, ou du moins qui doute. Et il a besoin qu'on lui dise, tu fais bien les choses. Tu te débrouilles pas mal. C'est même formidable ce que tu fais. Bon, il y a quelques petits points à revoir, à corriger, mais on va le faire ensemble. Tu sais des choses que moi je ne sais pas, et moi je sais des choses que toi tu ne sais pas encore. Et cette idée de compagnonnage, peut-être que ça pourrait être un terme synthétiseur de cette journée et demie, parce qu'il renvoie aussi à la vie associative, il renvoie au parcours, il renvoie à la vie. Merci Jean-Michel pour ce terme.